Merci. À mon tour de remercier Gennaro et Anouk en l'occurrence. Gennaro m'a fait l'honneur d'accompagner la promotion ici présente de l'INP récemment à la Cité. Et donc, c'est aussi à cette occasion-là qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter le travail qu'on fait à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Et en particulier, je vais revenir du coup et conclure cette table ronde en bouclant la boucle avec les sujets que Jacqueline Hirsch a abordés tout à l'heure. Alors, Marianne m'a fait effectivement une formidable transition avec deux aspects qui, évidemment, à la fois sur l'exposition dont je vais plus spécifiquement vous parler et sur les missions de cet établissement qui est un musée national, qui sont donc à la fois parler d'une histoire commune. La Cité nationale d'histoire de l'immigration est un musée national qui parle de la place de l'immigration en France et de la construction et donc de l'apport de deux siècles, on parle de deux siècles d'histoire de l'immigration dans la construction de la société française. Je vous ai juste remis ici les missions telles qu'elles sont fixées par l'État à notre établissement. Et vous verrez que la troisième mission de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration consiste à rien moins que faire évoluer les regards et les mentalités sur l'immigration en France. Mission fixée par création du décret de l'établissement en 2007. Et juste un petit mot de contexte, puisque Marie-Hélène a également pointé tous les grands sujets qui peuvent se poser sur des musées d'histoire, et en particulier, je vous parle d'un musée d'histoire qui ne parle finalement que d'une histoire récente, et c'est très spécifique, et Jacqueline Hirsch a tout à l'heure pointé la difficulté, on est encore dans une difficulté supplémentaire de l'exposition d'histoire, qui est d'une histoire récente, voire très récente. Et l'institution à laquelle j'appartiens, par ailleurs, est née aussi d'une espèce de contemporanéité extrêmement présente, puisque l'idée ancienne qui date des années 80, en fait, une demande à la fois de la société civile et des associations de défense des immigrés et de défense autour de mouvements de type SOS racisme, et d'autre part une demande des historiens autour de Gérard Noiriel, qui en France, dans l'historiographie française, a créé l'histoire de l'immigration, et même en Europe, et avec cette demande qu'une institution culturelle en particulier parle de l'immigration et donne des clés de lecture aux Français et aux Européens, un peu sur le modèle du seul établissement qui existe sur ce modèle-là, qui est aux États-Unis, bien évidemment, à savoir Ellis Island. Cette idée n'a abouti finalement que dans les années 2000 et est née dans un contexte extrêmement précis qui est celle des suites du 21 avril 2002. Avec donc à l'époque Jacques Chirac, président de la République réélu dans les circonstances que nous connaissons tous et que nous avons vécues. Pour ma part, c'était ma première élection présidentielle, donc avec une véritable implication. Jacques Chirac a missionné Jean-Pierre Raffarin à cette époque-là pour, en 2003 et 2004, établir un certain nombre de mesures pour rétablir une politique d'intégration et de valorisation de l'immigration pour aller contre ce qui s'était passé le 21 avril 2002. Et l'une des mesures de cette réflexion politique portée par le Premier ministre a abouti à la création d'une cité nationale de l'histoire de l'immigration avec tous les délais de création d'un établissement patrimonial et en particulier d'un musée national, a ouvert en 2007 dans des circonstances qui n'étaient pas du tout celles qui avaient prévalu à sa création. C'est un musée qui a été porté sous une présidence et très fortement politiquement dans une vision de l'intégration et de rétablissement d'une politique d'intégration, et qui a ouvert en octobre 2007, juste après le lancement d'un débat sur l'identité nationale. Je ne vais pas m'étendre parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais on parle bien d'un musée d'histoire pourtant, qui, parce qu'il parle d'une histoire à la fois thématiquement extrêmement sensible, parce que l'immigration concerne notre vie à tous, c'est notre vie quotidienne, c'est parfois, c'est essentiellement un sujet de polémique et de polémique politique et de long terme dans notre pays, mais, traiter de cette histoire d'un point de vue national est extrêmement compliqué, on est toujours heurté aux politiques. On en a parlé un petit peu tout à l'heure et forcément c'est un sujet. Pourtant, Et il faut parfois être courageux, et je pense que ça fait partie des difficultés, la réelle, y compris pour des professionnels, et je ne parle pas là du point de vue du politique, mais des professionnels, et Jacqueline Hirsch a porté ce témoignage de la façon dont il faut parfois convaincre aussi ses institutions de tutelle et les politiques qu'on a autour de nous. Il faut être courageux parfois pour faire des expositions d'histoire, en particulier pour des expositions d'histoire qui traitent soit de sujets très contemporains, soit de sujets sensibles que sont en particulier la guerre d'Algérie. Voilà, cette exposition s'est inscrite, la cité a choisi de la faire quand même, malgré, comme je le disais tout à l'heure en répondant à M. Dagente, malgré les polémiques diverses et variées qui ont prévalu à la naissance de cette institution, nous avons choisi quand même d'organiser cette exposition sur la guerre d'Algérie. Et là, je parle d'une exposition qui traite spécifiquement d'une période de la guerre d'Algérie en 2012. Et cette exposition a ouvert le 8 octobre 2012, c'est-à-dire 10 jours avant le 17 octobre 2012, qui fêtait institué officiellement par le nouveau président de la République un jour de mémoire du 17 octobre de 1961. Donc, avec ce contexte, si nous avons pu faire cette exposition, et là, je rebondis aussi sur ce que Marianne a dit tout à l'heure, et c'est un sujet qui nous concerne tous, et toutes les interventions précédentes le montraient, c'est parce que nous étions accompagnés et qu'un projet d'exposition se fait heureusement collectivement. Et si nous avons pu faire cette exposition et la maintenir dans notre programmation, alors que ce n'est pas forcément ce que le politique nous aurait demandé de faire à ce moment-là en particulier, c'est parce que c'est une exposition de Benjamin Stora. C'est une idée de Benjamin Stora qu'il a amenée dès 2007 à la création de l'établissement en disant « Il y a un sujet que je n'ai jamais traité, moi personnellement, Benjamin Stora, au titre de mon travail sur la guerre d'Algérie, c'est l'immigration et la guerre d'Algérie vue par les Algériens de France. » Et donc, c'est un projet qu'il a... Là aussi, on revient sur les calendriers qui nous occupent tous de 5 ans, 6 ans pour monter un projet d'exposition. C'est un projet qu'il a proposé à la cité quasiment à sa création. Et évidemment, à la fois la personnalité de Benjamin Stora, sa position d'historien incontestable, incontesté de la guerre d'Algérie, un élément extrêmement important qui est ses bonnes relations avec l'Algérie, parce que quand on parle de guerre d'Algérie, quel que soit le biais par lequel on l'aborde, c'est un élément fondamental d'avoir en face une légitimité du côté des interlocuteurs algériens. Évidemment, le réseau et la légitimité historienne de Benjamin Stora a été le seul, vraiment le point d'accroche de cette exposition pour la maintenir, encore une fois, dans des circonstances assez pas forcément simples. Le résultat étant que la Cité nationale de l'histoire de l'immigration est le seul musée national à avoir présenté une exposition à l'occasion du cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie et de l'indépendance de l'Algérie. Le musée de l'armée a présenté à cette occasion-là une exposition qui parlait de l'Algérie coloniale et qui s'arrêtait juste avant la guerre. Et nous avons en fait pris, d'ailleurs en termes de calendrier, on s'est coordonné avec eux pour prendre la suite. Et l'exposition, du coup, a commencé sur la fin de l'année. Benjamin Stora s'est donc associé à une de ses doctorantes. Là aussi, c'est un point aussi pour un musée d'histoire toujours important d'être dans l'actualité absolument en cours et l'histoire en construction. Linda Amiri, qui vient de rendre sa thèse et qui travaille, elle, sur l'un des sujets de cœur de cette exposition, à savoir l'engagement politique des Algériens en France, parce que la guerre d'Algérie s'est faite en France. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur le choix du sujet de l'exposition en particulier. En fait, il se trouve que Benjamin Stora lui-même, donc c'est une recherche Cette recherche sur les Algériens en France pendant la guerre d'Algérie s'est faite pour cette exposition, ce qui est aussi évidemment l'un des grands enjeux d'un musée d'histoire, de participer à la construction du discours historique. Et en fait, M. Stora est parti d'un constat qu'il avait fait lui-même au cours de recherches précédentes sur la guerre, qui est que par un heureux hasard, il y a en France deux recensements des Algériens, non encore Algériens, mais donc quand même identifiés comme musulmans français établis dans le département, en métropole, pour dire les choses comme elles sont. Il y en a un en 1954 et un en 1962. Et donc, il y a des chiffres des préfectures de police françaises de l'époque pour les compter. Et il se trouve que la présence algérienne en France pendant la guerre, très paradoxalement, a doublé. Et donc, c'est un des points en fait, fondamentaux de l'histoire de l'immigration des Algériens en France. L'exposition commençant par une introduction, bien évidemment, qui revient sur, contrairement à des idées reçues, évidemment très importantes dans la société française actuelle, l'immigration algérienne en France remonte au XIXe siècle. Il y a toujours, depuis la colonisation, il y a toujours eu, de manière relativement naturelle, des musulmans d'Algérie qui se sont venus s'installer en France. Et ce n'est pas du tout une immigration récente. Contrairement aux autres immigrations maghrébines, l'immigration algérienne est une immigration ancienne et pas une immigration de crise économique post-années 70. Donc voilà un peu pour la construction du propos de l'exposition, sachant que là, évidemment, et je parlerai un petit peu des questions d'organisation concrète de travail de l'exposition, avec un historien comme Benjamin Stora, il écrit bien sûr l'intégralité du synopsis, il est ultra spécialiste du sujet, il écrit le parcours, il écrit tous les textes, il pilote le catalogue, le problème étant qu'il n'avait jamais fait d'exposition auparavant. Et là, au contraire, et c'est quelqu'un avec qui on a extrêmement bien travaillé, mais Marie-Hélène l'a dit dans son introduction, on est peut-être encore plus dans les expositions d'histoire, c'est peut-être le cas dans les expositions d'archéologie dans une moindre mesure, mais dans les expositions d'histoire. Une exposition, pour avoir sa légitimité, doit bien sûr s'accompagner d'historiens spécialistes du sujet, de préférence plusieurs pour augmenter les points de vue, qui souvent sont des universitaires qui n'ont jamais été confrontés à la façon de fabriquer une exposition. Et ça peut, là je le dis pour nos jeunes collègues qui seront confrontés à ces sujets-là, ça va jusque dans des choses extrêmement précises qui sont notamment, et quelque chose dans un établissement public comme le mien, tout passe par des marchés publics. Les calendriers des marchés publics sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire que 18 mois avant, il faut avoir un scénographe, un an avant, il faut avoir des graphistes, il faut avoir des textes écrits. Malheureusement, j'imagine que vous avez abordé le sujet hier, la question des marchés publics dans la fabrication d'une exposition est quelque chose d'absolument fondamental quand on est soumis au code des marchés. Qu'un commissaire d'exposition qui n'y a jamais été confronté à ce problème, pour être clair, il s'en fiche complètement. Et quand on lui explique que les textes de l'exposition doivent être rendus tel jour parce que le graphiste en a besoin pour les mettre en page et que le calendrier prévisionnel a été validé ainsi, ça peut aboutir à des choses extrêmement compliquées. C'est extrêmement vrai, évidemment, aussi du lien avec un scénographe. Le métier de scénographe est un métier, je ne sais pas s'il y a des scénographes ici, des architectes muséographes ou des scénographes, c'est un métier encore très méconnu, je trouve, y compris peut-être de temps en temps de nous, les conservateurs. C'est un métier donc complètement méconnu de beaucoup d'universitaires qui nous accompagnent dans la construction de nos expositions. Et donc, effectivement, quand on a comme ça, finalement, un groupe de projets constitué de deux commissaires extérieurs, une personne, donc dans notre cas, Elia Yeles, qui a été recrutée spécifiquement pour cette exposition à la Cité et en chef de projet, cette coordination professionnelle et là de nos métiers, de savoir ce que c'est que de monter une exposition est fondamentale pour éviter d'arriver à des clashs qui parfois, pour être franche, sont extrêmement proches entre eux, notamment un historien qui a construit son propos et qui veut impérativement mettre... Marianne a parlé tout à l'heure de la chronologie. La fabrication d'une chronologie dans une exposition d'histoire est un point absolument fondamental et peut donner lieu à des débats extrêmement compliqués parce qu'un historien a tendance à vouloir mettre... des centaines de dates, et le graphiste lui explique que le mur fait un certain nombre de mètres carrés et que malheureusement il va falloir sélectionner dans certaines dates et voilà. Bon, il se trouve que dans bien des cas, je vois des mous au premier rang. Dans bien des cas, ça se passe bien parce qu'on est dans des, voilà, on se connaît, on est dans un dialogue qui peut. Mais il arrive que ça puisse prêter quand même à confusion. Et là, je parle de mon expérience actuelle, donc non pas sur l'exposition sur l'Algérie, mais sur l'exposition future. Notre future exposition portera sur l'immigration dans la bande dessinée. Et la bande dessinée est un art du texte. Et là, nous sommes dans un dialogue extrêmement compliqué entre nos commissaires extérieurs, historiens de la bande dessinée, et notre scénographe sur la quantité de textes présents dans l'exposition et la chronologie. Voilà. Donc c'est un point qui, je trouve, est très important, et on en a parlé beaucoup sur cette idée d'une exposition, et en particulier une exposition d'histoire, est un travail d'équipe, et parfois avec voilà, des visions des choses et des métiers qui sont extrêmement différents, et c'est aussi comme ça qu'on arrive à des projets qui finalement sont sans doute réussis. C'est le croisement des regards, le croisement de métiers, et plusieurs professionnels qui font plusieurs métiers autour de la table, un historien qui écrit le propos, un conservateur qui va là dans notre configuration coordonner l'ensemble et avoir le regard vraiment de la fabrication d'exposition, et une équipe de scénographie et de graphisme qui met en scène l'exposition. Je voudrais insister un peu sur ce point dont on a déjà parlé, mais sur cette question de la scénographie des expositions d'histoire. Notre expérience sur cette exposition sur l'Algérie a été qu'en fait, elle a énormément intéressé les scénographes. Il y en a eu beaucoup de réponses, ce à quoi on ne s'attendait pas forcément, beaucoup de réponses dans l'appel à concurrence qu'on a lancé. Et on fonctionne par un mode de présélection, c'est-à-dire un appel à candidature sur lettre d'intention. Il y a en général entre 10 et 20 personnes qui répondent, et on en présélectionne 3-4 sur référence et sur la façon dont ils abordent le sujet. Et la sélection du scénographe de cette exposition est extrêmement intéressante, parce qu'en fait on a eu trois propositions très intéressantes et qui abordaient les sujets de manière totalement différente. Et ça pose du coup effectivement réellement la question de qu'est-ce qu'on veut faire dire à la scénographie et de la place fondamentale qu'occupe le scénographe aujourd'hui dans une exposition et dans la mise en place de son discours. Nous avons sélectionné un scénographe strasbourgeois qui s'appelle Alexandre Fru et qui pilote une agence qui s'appelle Atelier Caravane. Et nous l'avons sélectionné avec les commissaires, avec Benjamin Stora et Linda Améry, finalement parce que c'est lui qui avait le plus travaillé l'histoire. L'autre projet qui nous a beaucoup intéressé était un projet qui venait plutôt de scénographes spécialistes de musées de sciences, et eux avaient beaucoup plus travaillé l'expérience. Et en fait, on est souvent, alors en particulier sur un sujet comme celui-ci de l'immigration, on balance entre, voilà, est-on dans une scénographie qui va privilégier justement la mise en valeur des documents et l'approche historique du document et de la chronologie, ou dans un choix de scénographie qui va valoriser l'expérience pour arriver à l'émotion. On en revient toujours à ce sujet-là. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. En l'occurrence, là, sur cette exposition, on a privilégié celui des projets de scénographie qui avaient favorisé les documents d'histoire et plutôt une approche de mise à disposition du document. On l'a sélectionné pour plusieurs raisons, entre autres parce que l'exposition, grâce à Benjamin Stora, présente une grande quantité de documents d'archives inédites qui n'ont jamais été montrés, en particulier, donc, puisqu'on parle de la guerre d'Algérie, des archives de la préfecture de police qui n'avaient pas été montrées. Et je vais avancer dans ma présentation, puisque c'est surtout sur ce sujet-là, voilà, que l'exposition fait date puisque c'est la première fois qu'une exposition nationale parle du 17 octobre 1961, avec des documents inédits des archives de la préfecture de police sur l'événement du 17 octobre. Ce point est... Donc j'ai mentionné le fait que nous avions sélectionné un scénographe. Bon choix, mauvais choix, c'est sans doute discutable. L'exposition, on a une réception d'exposition qui est à la fois très bonne sur son contenu et sur le vécu. Énormément de visiteurs qui ont vécu cette période, que ce soit des Français ou des Algériens qui viennent et qui ressortent en disant « c'est ce que j'ai vécu, je me souviens du 17 octobre ». On a des témoignages de manifestants du 17 octobre et en particulier, je fais cette parenthèse parce que ça fait partie, on a parlé aussi sur, Marie-Hélène l'a dit tout à l'heure, sur les vernissages des expositions d'histoire sont des choses toujours extrêmement émouvantes. Et là, nous avons eu Jack Ralit, donc sénateur ou ancien sénateur communiste, pas la peine de vous dire de quel côté il était le 17 octobre, et qui a été extrêmement ému, qui est resté 2 heures le jour du vernissage en disant c'est la première fois que j'ai l'impression de revivre ce jour, et qui en fait nous a expliqué, il était évidemment du côté des Algériens, et qui nous a expliqué qu'il avait fait au mur de son corps pour défendre des Algériens qu'il connaissait contre les charges, et beaucoup de témoignages de cet ordre-là. Je suis désolée, les photos ne sont pas excellentes, c'est toujours difficile, mais ce mur est la proposition sur laquelle, en particulier, on avait fait travailler les scénographes sur leur esquisse, parce que c'est quand même un point fondamental dans le propos de l'exposition. C'est presque la fin. L'exposition se finit, bien sûr, sur l'indépendance et sur les fêtes de l'indépendance algérienne. Mais le scénographe que nous avons sélectionné a eu une interprétation de cette mise en scène du 17 octobre 1961 par le mur. Et en fait, sur cette idée de matérialiser la tension la tension au sens strict et la violence du 17 octobre par un mur qui est le seul endroit où l'exposition, qui par ailleurs, nous avons un espace d'exposition qui est un grand couloir, où le public s'arrête, est obligé d'être confronté à la violence du 17 octobre, vécue, voilà, bien sûr, comme une rupture, un événement qui jusqu'en 2012 n'avait pas été reconnu réellement par la France comme un problème. Et donc c'est une des propositions, c'est entre autres pour la raison pour laquelle on a estimé qu'il comprenait vraiment le sujet dont on traitait. Vous voyez aussi que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la difficulté des documents d'histoire. Alors c'est une exposition qui présente des documents d'archives, bien évidemment, qui présente aussi beaucoup de photographies, et où on a pris le parti aussi pour alléger un petit peu le propos de choisir aussi un scénographe qui utilisait les photos et les documents dans sa scénographie, et donc pour aussi vraiment donner une vision plus à taille humaine et à taille réelle de l'événement, de ce dont on parle. Et c'est vrai que ce mur du 17 octobre, en fait, est extrêmement reçu comme il doit l'être, à savoir par le public, à savoir comme un temps de réflexion, déjà, parce que le public est obligé de s'arrêter confronté à cette scénographie et de penser. L'exposition présente les deux parties, évidemment. Ça, c'est une façon extrêmement forte, et c'est le choix qu'on a fait quand on l'a retenu de mentionner cet événement particulier. Je ne vais pas être trop longue parce que vous aurez sans doute des questions. Je voudrais aussi insister sur un point qui est une des particularités de... Alors, un objet inédit que je voulais absolument vous montrer, qui est Jean-Jacques Lebel. Jean-Jacques Lebel a été un personnage important dans l'histoire du FLN et des militants du FLN et du MNA en France pendant la guerre d'Algérie, puisqu'il a été, il a caché des militants algériens qui se battaient pour l'indépendance. Et là, il a prêté quelque chose qu'il n'avait jamais sorti de chez lui, à savoir la valise qu'un de ses militants du FLN orphelin qui a disparu du jour au lendemain, une nuit de 61, a laissé chez lui avec l'ensemble des documents. Il y a toute une série de faux passeports à l'intérieur avec des identités diverses de ce militant et des militants avec lesquels il travaillait. Et donc, on voit aussi les tampons pour fabrication des faux papiers. Et ça fait partie des objets comme ça très forts auxquels on est confronté dans les sujets dont on parle, et que l'appui de quelqu'un, de la légitimité scientifique, j'y reviens encore, de Benjamin Stora, a énormément aidé à convaincre M. Lebel, qui n'était pas certain qu'il avait vraiment envie de parler de ce versant de sa vie. C'est vraiment, ça nous a permis de montrer cet objet qui est l'un des objets dont, là aussi, on parlait tout à l'heure des objets que le public choisit, voilà, qui est un des objets forts et qui nous est le plus, dont on nous parle le plus. Et pour terminer sur ce que nous présentons dans l'exposition, en termes d'objets forts, l'un des partis pris de la cité, en termes de construction même de l'ensemble de son parcours permanent et de toutes ses expositions temporaires, comme nous sommes sur une histoire de l'immigration qui est exactement toujours à la croisée de l'histoire et de la mémoire. Évidemment de l'histoire collective et de l'histoire objective de la construction de la société française à travers une immigration riche et ancienne et très diverse, et bien sûr la mémoire des immigrants, souvent Marie-Hélène l'a mentionné tout à l'heure, mémoire et histoire qui se construit de génération en génération sur un sujet comme la guerre d'Algérie. C'est une mémoire souvent dont la première génération ne parle pas. Il y a un vrai tabou de douleur aussi sur cette transmission de cette mémoire. Et en fait, c'est souvent la génération suivante qui demande, la deuxième génération, qui demande à, vous l'avez dit sur les harkis tout à l'heure, qui demande à savoir, à construire. Et en fait, nous avons ces retours extrêmement émouvants de cette exposition de deuxième et troisième génération qui, et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, qui nous disent, c'est la première fois que je vois l'histoire de mes parents. Je comprends maintenant ce que mes parents, mes grands-parents ont vécu et pourquoi ils n'en parlent pas. Et qu'en fait, voilà, que c'est une période trop difficile et que même la vie, les pressions, la vie de cette période, et qu'en fait, c'est aussi à ça qu'on sert, c'est-à-dire, il y a cette faire quelque part l'intermédiaire avec la distance, avec l'objectivation. Et l'un des points donc sur lequel on est toujours extrêmement vigilant pour passer aussi cette dimension très personnelle est le recours au témoignage. Alors, ça pose des questions théoriques et existentielles sur la valeur du témoin, sur qui parle, qui l'interroge, et ça je pense que c'est une question qui ne sera jamais réglée dans les musées d'histoire. On se pose tous ces questions toujours à un moment. Nous, pour l'instant, le choix que la cité a fait, c'est de faire des témoignages, de les présenter au public sans forcément leur donner non plus une valeur, les survaloriser, mais dans cette exposition sur l'Algérie, ça nous a permis de... c'est Linda Améry qui a apporté cet aspect au projet. Nous avons 10 témoignages, 10 témoins. Vous avez ici, on voit un petit écran vidéo, c'est en fait l'un des témoignages sur le 17 octobre d'une personnalité qui ensuite a été ministre du gouvernement de l'Algérie nouvellement créé, et il y en a 10 qui en fait dans chaque section de l'exposition apportent un témoin, ce qui dans un sujet comme celui-ci nous a semblé être extrêmement important à porter au public. Il est identifié, le public l'écoute, ça fait le lien avec ce qui est présenté autour. C'est sans doute discutable, mais ça donne aussi cet aspect extrêmement personnel. Et je conclurai juste en vous parlant d'un des témoins, toujours un peu dans cette partie sur les faux papiers et la fabrication, en fait, enfin, l'enjeu politique pour les militants algériens de l'indépendance et leur vie clandestine en fait en France à ce moment-là. Nous avons un des témoins, d'ailleurs, que tous ces témoins-là, bien sûr, étaient présents au vernissage et extrêmement émus. Ça, là aussi, on a eu des larmes, des familles entières, des familles de 15 personnes, 4 générations qui viennent au vernissage de l'exposition et qui, en fait, se retrouvent en réunion de famille d'une réunion de famille qu'ils auraient dû faire il y a 30 ans. Enfin, c'est extrêmement, extrêmement émouvant. Et donc, en particulier, un témoin, M. Zenaf, qui était donc spécialisé dans la fabrique de faux papiers pour les militants du FLN pendant la guerre d'Algérie et qui avait fait la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale pour la résistance et qui, en fait, a cette histoire tout à fait incroyable d'avoir, en fait, jeune résistant pendant la guerre travaillé pour la résistance et qui n'est pas du tout ni algérien, ni mais une personne du Nord, donc confrontée dans sa vie quotidienne à beaucoup de mineurs. C'est évidemment un point qu'on aborde dans l'exposition sur les Algériens dans les mines du Nord. Le centre historique de Levard est un des prêteurs importants de l'exposition et qui donc a choisi en fait de prendre exactement le même engagement pendant la guerre d'Algérie en France en apportant sa compétence de faussaire aux militants de l'indépendance algérienne. Et un vieux monsieur extrêmement sympathique et qui était tout à fait ému d'avoir pu donner sa vision à lui du combat d'un Français pour l'indépendance algérienne. Voilà, je m'arrête là, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais c'était pour conclure avec peut-être quelques deux points en particulier sur notre façon d'aborder ce sujet.